passe donc au point suivant. Octroi d'un contrat de service en matière d'évaluation foncière pour la période débutant le 1er juillet. Lynn, c'est la discussion qu'on a eue en huis clos. Faut que tu allumes ton micro, Lynn.
Oui, donc c'est ça, c'est ce que je vous ai présenté tantôt lors du caucus. Donc, je peux, au niveau de la résolution, là, concernant la question qu'avait posé M. Lalonde, donc, si vous allez voir le cinquième considérant, c'est en vertu de l'article 573.3.5, dont on fait mention, excusez, de la loi sur les cités civiles. Il va falloir que je corrige le tout parce qu'il va falloir que je fasse la référence au code municipal. Donc, c'est justement le. On peut donner un contrat de gré à gré avec FQM évaluation parce qu'ils ne sont pas soumis aux dispositions au niveau des appels d'offres, le fait que ce soit un organisme apparenté au municipal. Donc, ce soir, ce serait qu'on octroie le contrat à FQM évaluation à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2023. Puis que vous autorisez Mme Claire Bolduc moi-même à signer les 10 documents.
On propose.
C'est proposé par Yves et c'est appuyé par.
Bonsoir.
Carmen.
Oui.
Merci. Oui, Yves. Oui, pas Yves, Luc.
Non, c'était correct.
OK. Est-ce que quelqu'un est contre? Alors, c'est adopté. Je reviens juste au point sur l'occupation, le Fonds de développement des territoires. Je ne sais pas si Véronique a quitté, mais on passait tout de suite à l'autre point. Merci beaucoup, Véronique, de ta présence pour faire le point sur ce dossier-là du GAM. Et au plaisir de te revoir au bureau. Alors, point 10, c'est adopté aussi. Point 11, gestion des matières résiduelles. Je vais laisser la parole à Cathy.
Oui, donc vous avez reçu le rapport d'activité. Je voulais voir si vous aviez des questions, des commentaires.
T'as des beaux petits bacs.
Mais l'autre jour, tu disais que mon corps était croche en arrière, fait que j'ai pas pris de chance.
C'est bon, là, c'est le corps qui est croche.
Hey, moi, j'en ai une question niaiseuse.
Oui, vas-y, Marco.
Si je regarde les graphiques, la moyenne est 625 000. Et on a budgété 300 000 de plus parce qu'il faut acheter un truc.
Vous parlez du budget?
Oui, je regarde dans les déchets pour Multitech. La moyenne est 625 000. On a budgété 933 000. C'est parce qu'il faut s'acheter un truc. C'est pour ça que 300 000 de plus au budget.
Non, en fait, on a déjà... Oui, on va acheter un camion, mais c'est avec le fonds d'immobilisation. Là, ça n'a pas... On ne touche pas à la courbe au montant qu'on met pour les déchets. Là.
Pourquoi qu'on a mis 300 000 de plus par rapport à la moyenne?
C'est parce qu'au début de l'année, c'est toujours bas, mais plus que l'été arrive, plus que là, on remonte la courbe et on rattrape le budget.
OK, mais je me fie à sa moyenne. Oui, OK, c'est correct. D'abord.
C'est juste une moyenne sur 3 mois, donc c'est pour ça que la moyenne n'est pas élevée.
Ah, c'est ça l'affaire. Parce que je regardais les matières recyclables, la moyenne et le budget. C'est pas mal pareil.
Bon. Alors, le mystère est résolu. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Cathy?
Oui, Claire, moi, j'en aurais une.
Vas-y, Daniel.
Cathy, il faudrait peut-être juste vérifier pour la Verlochère-Andlier, la moyenne normale par mois, tu as mis 2 800, ça devrait être 12 000 à peu près. Juste faire une correction dans ton tableau.
Ah, d'accord. Oui, je viens de voir ça. Je vais faire la correction, pas de problème.
Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions?
Les chiffres devraient s'améliorer pour Témiscamingue parce que j'ai commencé activement à faire du compost.
Merci Yves. Alors, demande de modification au projet de règlement concernant la valorisation des matières résiduelles. Je vais laisser la parole à Daniel Dufault. Allume ton micro.
Oui, bien, c'est en lien avec un projet de règlement du ministère de l'Environnement
ce règlement-là s'appelle le règlement sur la valorisation des matières résiduelles. Alors, ça traite des sites qui traitent les déchets, les ordures, le recyclage, le compost, qui transforment ça. Fait que c'est un projet de règlement en lien, en fait, avec notre projet d'incinérateur. Puis qui encadre ce qui sort de ces équipements-là, ce qui va sortir de l'incinérateur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces résidus-là? Et puis, il y a un article à l'intérieur de ce projet de règlement-là, notamment l'article 19, qui dit que, dépendamment de comment on utilise ces résidus-là, bien, on peut être exclu d'une demande de certificat du ministère de l'Environnement. Alors, le projet de résolution que vous avez dans vos documents demande que pour les résidus de l'incinérateur, les cendres qui vont sortir de l'incinérateur, on puisse les utiliser, à la place de les envoyer à l'enfouissement à Rouyn-Noranda, qu'on puisse les utiliser pour, comme fondation pour les routes. Il y a une délégation de la MRC qui a fait un voyage en Europe en 2014, puis ce qu'on a constaté dans les projets d'incinérateurs, c'est que justement les cendres pouvaient être utilisées comme fondation des routes. Alors, le projet de résolution que vous avez dans vos documents ce soir, c'est de demander au ministère de l'Environnement qu'il modifie son projet de règlement pour qu'on puisse utiliser les cendres au lieu de les envoyer à l'enfouissement comme fondation de route, comme ça se fait en Europe.
Question ou commentaire? Il faut dire que cette demande-là pourra servir aussi peut-être notre municipalité, mais... D'autres, éventuellement d'autres municipalités, MRC ou d'autres territoires. C'est une demande plus générale. Est-ce que...
Oui, j'aurais une question.
Vas-y, Luc.
Pour quel type de route? On peut-tu mettre ça dans les chemins forestiers?
Daniel, est-ce que tu peux répondre?
Oui, oui. Route provinciale, municipale, forestière.
Oui, OK. C'est bon. Tu as répondu.
Est-ce que d'autres questions? Sinon, est-ce qu'il y a un proposeur pour Vas-y, Alexandre.
On demande en fait la possibilité de réutiliser les cendres non traitées sur les routes ou on demande en fait de permettre de traiter les cendres à découvert, mettons, là, puis récolter un peu comme il se faisait en Europe, là. Lixivia, je pense, de ces cendres-là. Est-ce qu'on demande dans le projet de résolution au ministère de dire on veut utiliser les cendres non traitées?
La question, c'est qu'on ne leur dit pas si on veut les traiter ou pas. On leur dit qu'ils nous autorisent à les utiliser. Ils mettront eux autres les conditions.
Okay. De toute façon, le lixivia, là, il est retourné à l'incinérateur. Et puis, qu'est-ce que c'est qui sort? C'est de la cendre, point.
Daniel, Daniel Dufour, est-ce que c'est possible pour toi de confirmer?
Oui, c'est ça. Au niveau du traitement des cendres, c'est prévu dans la prochaine résolution.
Alors, est-ce qu'il y a une proposition pour cette résolution-là?
Oui.
Oui.
André, appuyé de Luc.
Oui.
Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un est contre? Alors, on passe au point 11.3, modification au projet de règlement modifié. OK, modifiant le règlement sur l'enfouissement. Daniel, toujours?
Ben, c'est une autre modification du ministère de l'Environnement. Celle-là, un règlement qui existe déjà, le règlement sur l'enfouissement et l'incinération. Qu'est-ce que dit ce règlement-là? C'est en fait un règlement qui dit... Comment construire, comment exploiter un dépotoir? Comment construire, comment exploiter un incinérateur? Alors, la consultation se termine le 19 mai. Et dans le rapport de voyage qui a été fait en Europe en 2014 par la MRC, les gens qui ont fait le voyage ont constaté que ce qui rentrait dans l'incinérateur puis ce qui sortait de l'incinérateur était entreposé à l'extérieur. C'était mis dans des sacs, c'était mis sur une dalle de béton. L'eau qui passait à travers ça était récupérée, était traitée. Puis après plusieurs mois à l'extérieur, ben, les cendres étaient peu à peu faisaient en sorte qu'ils étaient un peu décontaminés puis qu'ils pouvaient être réutilisés pour d'autres projets à ce moment-là. Le projet de, mod- La résolution que vous avez là, c'est de demander de profiter de la modification qui est actuellement en cours au ministère de l'Environnement pour que le ministère de l'Environnement précise que ce qui rentre dans l'incinérateur puis ce qui va sortir de l'incinérateur, ça puisse être entreposé à l'extérieur. Ça va du même coup réduire les coûts que la MRC aurait au niveau de mettre en place l'incinérateur. Parce qu'actuellement, le règlement dit qu'il faut tout que ce soit à l'intérieur d'un bâtiment.
Est-ce que vous avez des questions, commentaires là-dessus? Alexandre, c'était ta question de tout à l'heure. Michel Roy, tu avais une question?
Non.
OK, excuse. Alors, Alexandre, est-ce que tu avais encore une question?
Non, c'est la question que j'avais. Là.
OK, c'est bon. Est-ce que quelqu'un veut faire la proposition?
Oui. Je propose, là.
Daniel, c'est appuyé de M. Charron?
Oui.
Parfait. Ça va pour tout le monde? Personne n'est contre? Alors, merci beaucoup. On passe au point 11.4. C'est le bilan GMR de Cathy. C'est une information.
Oui, en fait, comme chaque année, je produis le bilan GMR, c'est-à-dire la quantité de matière qu'on a générée sur le territoire, donc les matières qu'on a envoyées à l'enfouissement et qu'est-ce qui a été récupéré. Donc, vous avez le bilan. On voit qu'au niveau des matières envoyées à l'enfouissement, on en a envoyé quand même là, 9 % de plus que l'année passée, principalement au niveau des encombrants puis des résidus de construction, rénovation, démolition. Puis au niveau de ce qui a été récupéré, bien, ça, il y a une augmentation de 5,4 %. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions ou des commentaires.
Question pour Cathy là-dessus? Alors, merci beaucoup. Ça conclut le point 11. Point 12, vous avez ces traductions des documents en version anglaise. C'est une discussion qu'on a, qui semble-t-il, s'est déjà tenue. On a pris la décision à l'interne de traduire pour le temps de la COVID, étant donné l'importance stratégique des informations qui étaient fournies. On a pris la décision de faire traduire nos communiqués de presse et certaines autres informations particulièrement importante pour les populations, au bénéfice des populations autochtones et des populations anglophones du territoire. Alors, on souhaite avoir votre avis sur cette façon de faire-là. Évidemment, on était dans la situation de la COVID-19. Il y avait des informations particulièrement stratégiques qui devaient être rendues disponibles. On a fait également, on fait des entrevues en anglais 2 fois par semaine. Je suis secondée dans ça par Norm Young. Quand il n'est pas disponible, c'est moi qui ai fait, mais mon anglais est bien moins bon que le sien. Alors, dans tout le contexte, on voulait avoir un peu votre aval sur la traduction des documents tels que les communiqués de presse. Je pense que c'est une mesure qui sert bien actuellement en temps de pandémie. Et pour les communiqués de presse, on pourrait poursuivre. On fera une discussion plus élargie sur toutes les autres documentations de la MRC. Mais actuellement, on aimerait vous entendre sur est-ce qu'on continue. Je vous suggère pas de traduire tous nos documents, mais de traduire les communiqués de presse actuellement et nos documents les plus importants au bénéfice de nos populations anglophones. J'aimerais vous entendre sur si on...
Je prendrai la parole, Mautelin.
C'est bien correct. Alors, oui.
Mautelin, moi, de mon côté, là, c'est très, très apprécié, surtout des communautés, de la communauté autochtone à côté de chez nous, même que je te dirais qu'ils publient les communiqués sur le page Facebook. Moi, depuis, je te dirais, 3 ans, là, on a de plus en plus de citoyens qui sont anglophones, qui viennent de New Lesker, des compagnies qui déménagent en Tremblant du Nord, puis qui sont carrément anglophones. Fait que ça aussi, là, ça a été très apprécié là, d'avoir la documentation en anglais. C'est que du positif de mon côté. C'est ça que je veux dire.
Surtout qu'on vise des informations fonctionnelles. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. D'autres commentaires? Sinon, j'apprécierais tout de même un appui à la traduction des communiqués de presse de la MRC et des informations stratégiques au bénéfice de la population en temps de pandémie. Puis on fera la discussion plus largement quand on sera en présentiel sur la traduction de tous des grandes orientations des documents comme le schéma d'aménagement, par exemple, ou le PDZA. Si on s'engage à les traduire, je pense que c'est d'autres types de conséquences et c'est aussi d'autres types de frais. Mais pour les communiqués de presse et les informations stratégiques dans les situations d'urgence, ce serait approprié d'avoir une résolution qui vienne confirmer ce qu'on fait. On avait pris la décision de le faire, là, étant donné les circonstances.
Bien, je vais l'appuyer, mon Claire.
Tu l'as fait, la proposition, Nico?
Oui, je l'ai fait.
Est-ce que quelqu'un appuie la résolution?
Est-ce que la MRC va recevoir ma facture pour les frais de traduction que j'ai fait dernièrement? Je vais utiliser cet argent-là pour faire traduire les livres de vie.
C'est appuyé par Yves Ouellet, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que quelqu'un est contre? Alors, merci beaucoup. Point 13, suivi du comité administratif. Vous avez, dans votre documentation, on vous a rendu disponibles les comptes rendus du 25 mars et du 8 avril du comité administratif. Avez-vous des questions? Est-ce que je me trompe? oui, je me trompe. Ils ont été envoyés, excusez, ils ne sont pas dans la plateforme, ils ont été envoyés après. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires sur les comptes rendus qui vous ont été soumis? Alors, s'il n'y en a pas, on va passer au point 14, qui était affaires municipales. Est-ce que, Nico, tu avais parlé d'ouverture des descentes de bateaux? Il y avait une question à cet égard-là.
Oui, dans le fond, c'est plus une question. Ça relève des municipalités, l'ouverture des descentes de bateaux, les mises à l'eau. J'aimerais juste conseil au Témiscamingue. Je pose la question à toutes les maires qui ont une rampe de mise à l'eau au Témiscamingue. On parle de pratiquement tous. J'aimerais qu'on soit constant, qu'on soit tous pareils, puis qu'on l'ouverture de la pêche s'en vient. Je crois que c'est d'une grande importance. Chez nous, à Notre-Dame-du-Nord, moi, c'est sûr que je la rouvre, mais ça serait intéressant que toutes les autres municipalités fassent de même. Là. Parce que je me fais interpeller beaucoup par les citoyens. Il y a beaucoup de citoyens qui veulent aller à la pêche, à l'ouverture de la pêche. Fait que je vois une nécessité qu'au Témiscamingue, on ait une place de pêcheurs, là, qu'on arrive pour. C'est sûr qu'on doit respecter les mesures de distanciation sociale. Là. Mais c'est ça, je voudrais avoir l'avis des autres maires, qu'est-ce qu'ils pensent faire avec les descentes de bateaux.
Et sur le site de québec.ca coronavirus, c'est clairement indiqué que pour les municipalités qui ont une rampe de mise à l'eau, pour les lieux, les municipalités où il y a une marina où il y a une rampe de mise à l'eau et pour les clubs nautiques, les rampes de mise à l'eau peuvent être ouvertes. La responsabilité est de vraiment, puis que les gens peuvent le faire, la responsabilité est vraiment de s'assurer qu'on ne favorise pas les rassemblements sur les lieux de mise à l'eau. Alors, l'obligation est vraiment de, et moi je le rappelle aux gens depuis 2 semaines maintenant, que toutes les activités ne doivent pas favoriser les rassemblements et qu'on doit respecter la distanciation. Mais c'est clairement indiqué que vous avez toute l'autonomie, l'opportunité de les ouvrir.
Dans notre cas, comme je disais tantôt, on va appliquer sensiblement la même chose que pour les pistes cyclables. C'est-à-dire que ça demeure ouvert. Mais la municipalité n'offre aucun service. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de service d'attente on n'exposera pas notre personne qui habituellement fait le service d'essence. On ne louera pas de quai pour l'instant, mais si les gens veulent juste seulement mettre leur bateau à l'eau, dans mesure, comme vous dites, qui respecte les autres normes provinciales, c'est notre position, quand même.
Nico, juste pour la mise à l'eau, vous autres, il n'y a pas de service à votre rampe de mise à l'eau?
Ben non, on n'a pas de service. C'est sûr qu'on va probablement... On ne sait pas trop encore si on va offrir le service d'essence. C'est ça l'histoire, là. Parce que c'est rendu compliqué, là. Fait qu'on... On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Ça n'a pas été statué encore.
Est-ce qu'on peut suggérer que les rampes de mise à l'eau sont accessibles sans service, puis qu'on attend les directives sur les marinas qui devraient arriver sous peu, oui, sur la manière de rendre accessibles des quais de marina?
Oui, on peut faire ça.
Est-ce que ça conviendrait à tout le monde? Michel Leroy, t'as une marina, toi, comment tu...
Nous, on va l'ouvrir. On attend de... la petite Bergeron, je ne me souviens plus de son prénom, est en train de préparer le protocole.
Josiane.
C'est vraiment au niveau des employés pour la mise à l'eau des bateaux. On ne veut pas avoir un employé qui est côte à côte avec un utilisateur, donc on est en train de finaliser ça. Puis les chambres de bain aussi, l'accès aux chambres de bain, le plexiglas pour ceux qui rentrent dans la capitainerie. On va envoyer le contrat bientôt, donc... avertir les gens justement sur les quais, parce que nous, on a ce problème. C'est pas un problème, mais les gens se rassemblent, surtout ceux de Rouen, se rassemblent tous sur le même quai. Donc, on met tout ça en place par écrit pour ouvrir normalement à temps. On suffit qu'on va ouvrir. Mais la rampe de mise à l'eau, de toute façon, si les employés ne sont pas là, les gens vont se mettre à l'eau, là, puis ils vont y aller, c'est tout.
OK. Il y a un autre élément aussi, c'est l'INSPQ. Plutôt que vous ayez à tout refaire le travail, l'Institut national de santé publique a mis sur le site de l'Institut national des guides de travail pour faciliter la distanciation des travailleurs. Et il y en a 9 pages de temps. Là, ils ont sorti ça pour un ensemble de secteurs d'activité. Et il y en a pour les loisirs aussi. Fait que je vous invite à aller voir ça. Nico, toi, la demande, c'était que les rampes de mise à l'eau soient accessibles dans les municipalités.
Oui, c'était ça. On sait tout constant, dans le fond. Là.
Je pense que, est-ce que c'est ce que tu entends, c'est pas mal que les gens vont les rendre accessibles, les rampes de mise à l'eau?
Ben, oui. Tu prends la parole, Claire?
Oui, vas-y, c'est Luc, ça?
Vous avez un lac qui s'appelle le lac Témiscamingue, qui est quand même... potentiellement assez facile à gérer étant donné que vous êtes proche du lac. Nous, on a 4 places qu'il faut aller mettre. Fait qu'on a décidé de prendre, on met les pancartes, parce qu'il y a des pancartes qui sont faites par le ministère, de suivre les ordonnances de la COVID-19. Il y a juste le petit lac à la truite qu'on ensemence au 8,5 à tous les ans, que lui, on va ôter le quai flottant, parce que là, tu peux avoir un rassemblement sur le quai lui-même. Mais le restant, c'est par boat sur l'eau. Donc, on ne viendrait pas à toutes les hauts, au lac Ostabonagne, au Morennes, au Saint-Amand, puis au lac à la Druite, là. Donc, avec les pancartes, je pense que le monde est assez intelligent pour savoir lire, et ça serait suffisant pour... Parce qu'aller à Ville-Marie, je connais qu'il y a un débarcadère, puis qu'il y a une marina qui peut créer une difficulté, mais être assez proche de la mairie, moi, je ne commencerais pas à embarquer dans le bois, là. Fait qu'on va mettre juste les pancartes qui sont
assez fins. Je pense que c'est acceptable, Luc. Là. Je pense pas qu'il y ait de... c'est les agents de la faune aussi qui vont être sur le territoire. C'est pas nécessairement toi, mais ton obligation, c'est d'afficher.
Moi, ce que je pense, c'est que le monde, ça fait quand même quasiment 6 semaines qu'ils sont confinés et qu'ils savent c'est quoi la réglementation. Là. Qu'ils vont s'envoyer aller la petite pancarte COVID-19. Bien, on va se tenir chacun dans notre bout de boat. Puis... Je ne pense pas qu'il y ait un problème vraiment là.
Comme j'ai dit, mais est-ce que vous êtes d'accord de dire on est prêt, on les ouvre, les rampes de mise à l'eau, elles sont disponibles pour l'ouverture de la pêche quand les lacs seront calés pour de bon?
Oui, Alania, nous autres, on est prêt.
OK.
Juste dire à Moffett, là, on l'autorise. on va mettre une signalisation, mais on a aussi pris la décision pour l'instant d'interdire la pêche sur les quais attenant aux rampes de mise à l'eau. Parce que c'est un des cas qu'on a, c'est des gens vont pêcher sur le quai et ils restent là longtemps. Donc là, si quelqu'un arrive pour descendre son bateau, qu'est-ce qui se passe? C'est pour essayer de gérer la situation à l'avance, on a décidé à jusqu'à nouvel ordre d'interdire la pêche sur les quais.
Bon point.
Excusez, André.
Vas-y, André.
La pêche à l'eau, quelle date?
C'est en fin de semaine.
Pourquoi
ouvre le mois de mai.
Le mois de mai, en fin de semaine, c'est où? Il y a de la pêche qui ouvre en fin de semaine, le 23 samedi.
La truite. La truite.
Oui.
Bon, ben, ça veut dire que si l'école rouvre et qu'on empêche les gens de pêcher sur le quai, on n'est peut-être pas correct.
Si l'école rouvre, pourquoi?
S'ils rouvrent les écoles puis que les adultes ne peuvent pas pêcher sur le quai.
Ben, c'est parce qu'André, quand ils vont ouvrir les écoles, ils vont avoir des règles de comportement, des règles de conduite très précises. Puis s'ils assouplissent les règles de distanciation sociale, on verra à ce moment-là. Mais dans le cas actuel, dans les conditions actuelles d'urgence sanitaire, je pense que la résolution qu'a pris Moffett, la décision qu'a pris Moffett d'interdire la pêche pour empêcher les rassemblements, puis pour faciliter la distanciation sociale, pour le moment, il est approprié. Quand les circonstances changeront, les municipalités auront l'opportunité de modifier aussi leurs décisions.
J'ai dit Moffett, mais c'est un peu toutes les municipalités là, qu'il y a. Un petit bout de quai là, que deux, trois jeunes vont à pêche. Là.
Mais c'est la règle, la décision, c'est qu'on ne peut pas permettre des facilités de rassemblement.
Mais, je suis d'accord à ça.
OK. Excusez, qui veut Claire, parler? Là, il y a Michel?
Oui. La truite, en passant, elle n'ouvre pas partout parce que sur la ZIC, à ma connaissance, elle est ouverte, sauf sur le lac Audouin, qu'on me dit. Mais peut-être que Luc pourrait me répondre à ça, mais dans le groupe de Béarn, la truite ne doit pas être ouverte en fin de semaine. Non?
De toute façon, on peut bien discuter de l'ouverture de la pêche à la truite. La question qui était posée, c'est est-ce qu'on donne accès aux rampes de mise à l'eau dans les municipalités? Je pense que vous avez Claire, tous répondu que c'est oui.
C'est ça. Claire, à ton prochain point de presse, que tu dises, bon, ben, les municipalités ont décidé d'ouvrir le rang de mise à l'eau.
Je le fais dès demain, Nico. J'avais déjà parlé de ça, mais je vais le redire et rappeler que suite à la discussion, les municipalités conviennent de rendre accessibles les rampes de mise à l'eau et de ne pas favoriser, puis là, ce sera chaque... et de ne pas faire en sorte de ne pas favoriser les rassemblements tels que le prescrit le décret actuellement.
Entendu.
Claire, t'ajouterais peut-être quelque chose?
Oui, Carmen.
Nous, tu sais, c'est ça, la municipalité, on n'est pas près non plus du lac, là, je veux dire, pour ce qui est de la surveillance. Puis nous, on avait des travaux actuellement qu'on était en train de faire. Te dire est-ce que c'est accessible, exemple, en fin de semaine, je ne sais pas présentement, mais on suivra vraiment, on va suivre les consignes données exactement comme les autres. Mais nous, ça sera une pancarte parce que pour ce qui est, c'est peut-être le plus problématique, c'est un peu de voir les gens, là, comment ils vont se comporter. Là. Pour nous, c'est un peu problématique parce qu'on est quand même à peu près 7-8 kilomètres du lac. Là. Alors, donc, c'est pas.
Je pense que c'est correct de l'afficher. Vous ne pouvez pas être partout tout le temps. On ne peut pas avoir un surveillant derrière chaque citoyen. Là. Mais il faut aviser puis informer. Je pense que les gens, s'ils sont pris en défaut puis qu'il y avait l'affichage était fait, très bien fait, ils peuvent pas, ils pourront pas se défendre. Mais si on laisse aller sans rien afficher ou sans rien signaler, ben ils pourraient ne pas le savoir. Alors, la responsabilité, c'est d'informer. Vous le faites en affichant, c'est correct. On ne demande pas à personne de... C'est sûr qu'il y a des circonstances où la surveillance, elle va être plus difficile. C'est pas ce qui est souhaité non plus. Encore là, je vous invite à revenir à québec.ca/coronavirus. toutes les réponses. C'est vraiment bien fait, le question-réponse qu'on retrouve là-dedans. Je vous invite à aller le consulter. Nico, ça répondait à ta question?
Oui, absolument.
OK. Excuse-moi. Michel, tu avais une autre question, vas-y.
Oui, non, c'est un commentaire. Nous, on n'ouvre pas la rampe en fin de semaine, non? Nous, la pêche n'est pas ouverte, il n'y a pas de truite sur le lac Témiscamingue, puis il y a encore de la glace. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas d'employés là, les quais ne sont pas prêts. Donc, c'est sûr qu'on n'ouvre pas notre trempe et il n'y a pas personne là en fin de semaine. Non?
C'est ça.
Donc,
c'est la même chose, moi, Michel. Là, j'ai,
OK.
J'ai pas accès à l'eau encore, l'eau est trop basse. Là. Mais c'est juste pour l'épreuve des prochaines semaines, mettre la pêche officielle à rouvre, doré brochet. Là.
Il faut voir aussi qu'on ne se réunira pas avant un mois.
C'est ça.
À moins d'urgence. Alors, c'est bien qu'on en parle dès ce soir. Sinon, ça va. Ben, merci beaucoup. Affaires nouvelles, juste un point. Ça a été apporté par le CISAP, puis je fais juste ça comme le message de la préfète là, que je n'ai pas fait au début. Les personnes, il y a 148 personnes en Abitibi-Témiscamingue qui ont été affectées officiellement et peut-être un peu plus. Mais les personnes, de ces 148-là, il y en a quand même 113 qui sont guéries, qui sont dans les milieux avec nous autres, qui, une fois que la personne est guérie, elle recommence à circuler et à vivre. Et il y a des gens qui ont signalé au centre, au CISAP, que ces personnes-là, elles vivaient de la stigmatisation et même de... Il y a quelqu'un qui s'était fait... qui avait été invité à quitter l'épicerie dans laquelle elle se trouvait pour faire des commissions parce qu'elle avait été malade de la COVID-19. Alors, c'est une sensibilisation qu'on fait. Les personnes qui sont guéries, ils sont guéries. Non seulement ils ont développé l'immunité par rapport au virus, mais ils contribuent à l'immunité collective. Ils contribuent à ce que cette immunité-là se développe largement dans la population. On a besoin que 70 % de la population développe cette immunité-là. Et probablement que ce 70 %-là va être 70 % de personnes qui vont avoir eu la COVID-19. Alors, c'est juste attirer votre attention sur le fait que les personnes qui ont été malades, qui en sont guéries, elles ne sont plus contagieuses, elles ne sont pas dangereuses et elles contribuent, on devrait les remercier parce qu'elles contribuent à l'immunité collective dans nos milieux. Alors, moi, je fais le message, je le transporte aussi, je le répète régulièrement sur les ondes. Ce que je m'assure, c'est qu'on puisse sensibiliser le plus de gens possible. Une personne qui est guérie, elle est guérie. Elle n'est pas contagieuse, elle ne peut pas rendre les autres malades. Et elle combat, elle a combattu le virus et elle contribue à l'immunité collective. Alors, juste une petite sensibilité là-dessus. Sinon, je recevrai une proposition pour la levée de l'Assemblée.
Gérald
Charon, merci.
Oui.
C'est ça, c'est Gérald, c'est qui le dit?
Oui, Gérald.
Appuyé de Carmen. Oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, merci tout le monde d'avoir été là ce soir. C'est vraiment plus le fun en présence qu'en visio, hein?
Ouais.
J'ai hâte de vous voir. J'ai vraiment hâte de vous voir tout le monde.
Est-ce qu'on a un appel demain matin?
Oui, demain matin. Oui, demain matin, on a un appel. Et surtout, demain matin, on a un appel. Puis, Restez attentifs. Si on a besoin de vous rappeler pour des décisions rapides, on va le faire. On va essayer que ce soit le moins souvent possible, mais si on a besoin de le faire, on va vous rappeler. Soyez attentifs à nos demandes. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonne santé.
Merci. Bonsoir.
Bonsoir.